Épisode 64 du podcast Aliment Passion, premier épisode mensuel des Foodie News. Je vais vous parler entre autres là, des événements à venir dans les prochains jours, semaines et prochains mois, des soirées spéciales qui sont annoncées, des ouvertures de nouveaux établissements qui vont revivre de leurs cendres et malheureusement la possibilité de la fermeture d'un établissement qu'on aime beaucoup. Et c'est parti! Salut les foodies, bienvenue au podcast Aliment Passion. Ici Roger, ton crazy chef. Va tout de suite liker là, tous nos médias sociaux, Facebook, Instagram et Twitter pour avoir les photos et les dernières nouvelles quant au podcast. Aujourd'hui, un premier épisode spécial. Je vais essayer de faire ça de façon mensuelle. Les Foodie News. Je vais vous parler là, de un paquet de nouvelles qui va y avoir là, dans tout ce qu'il y a dans le monde là, agroalimentaire. Donc, des nouvelles, des fermetures, des événements. Toutes sortes de belles choses. Là. Je pense qu'il y a tellement de nouvelles là, qu'on peut parler que je pense qu'il va y avoir là, un paquet de belles informations que je vais pouvoir vous transmettre. Donc, on va commencer avec les choses en saison présentement. Évidemment, là, c'est le temps des sucres là, qui bat son plein là, en plein mois de mars. Là. Donc, les érablières sont ouvertes et ils roulent énormément. Une des érablières là, que je recommande, ça, même ça fait plusieurs années que j'ai pas été, mais qui avait là un des meilleurs menus, là, peut-être là, très bien exécuté. Évidemment, dans la région de Mont-Saint-Grégoire, c'est reconnu, là, il y a à peu près 12 cabanes à sucre, là, toutes à trois pieds, à peu près l'une de l'autre. Là. Fait que vraiment, vous pouvez choisir votre favorite. Mais une là, qui a fait sa renommée là, et qui est encore là, évidemment, après la pandémie, là, c'est pas toutes les érablières qui ont été capables là, de survivre à ça et d'être prêts là, pour le temps des sucres. C'est des temps très durs, c'est difficile d'avoir du personnel, c'est extrêmement saisonnier, c'est des très grosses journées, c'est du très gros volume. Donc, il y a beaucoup d'érablières qui ont juste pas été capables là, d'avoir ou de ravoir du personnel là, pour être capable de passer à travers la saison et ouvrir au public. Donc, ils se sont rabattus là, sur des paniers, des forfaits. Là, ils sont plus capables là, d'offrir là, les grosses tablées, là, les gros repas là, comme ils faisaient avant. Et il y a eu une espèce de... j'ai pas trouvé ça cool. Là, une espèce de salissage qu'il y a eu là, au niveau du prix moyen là, des cabanes à sucre. Évidemment, il y en a des plus chers, il y en a des moins chers. Là, mais écoute, là, il y avait l'air à dire qu'il y avait absolument rien. Impossible d'avoir quelque chose là, en bas des alentours de 50$. Je pense que tout ça dépend évidemment là, que si vous comptez votre essence pour vous rendre, là, si vous êtes très loin là, des érablières. Sinon, donc, ben, comme je vous dis, je vais vous parler là, de l'érablière Charbonneau à Mont-Saint-Grégoire. Le prix là, pour la saison 2023 pour les adultes, là, donc de 16 ans et plus, est de 40,95$. Donc, on s'entend pour 41$. Les ados de 13-15 ans, c'est 28,95$. Les enfants de 6 à 12 ans, 19,95$. 3 à 5 ans, 15,95$. Et les enfants 0 à 2 ans sont gratuits. Et il y a un rabais de 2$ là, pour les personnes de 65 ans et plus les lundis, mardis et mercredis seulement, sauf pour évidemment le lundi Pâques. Donc c'est quand même là, bon évidemment, j'ai rien donné là, mais je pense que c'est beaucoup moins onéreux là, que ce qu'on a laissé couler dans les médias où c'était 4 personnes, on partait à 200$ de ticket d'entrée. Je pense que les prix que je viens de vous dire là, font preuve que c'est pas aussi grave là, que ce qu'on a laissé couler dans les médias. C'est pour ça que je trouvais pas ça cool du tout. Là. Les acériculteurs ont travaillé tellement fort là, pour pouvoir sauver leur cabane à sucre que d'avoir une espèce de traînée de nouvelles comme ça, là, que les prix étaient complètement hors de portée de tout le monde. Là. Bon, écoutez, là, on s'entend là, que c'est 41$ par adulte, mais bon, vous pouvez manger quand même à volonté là, dans une place comme la cabane à sucre, l'érablière Charbonneau. Oui, bon, il y a le menu du temps des sucres traditionnels, là, donc vous allez avoir des fèves au lard, du jambon, des œufs, bon, les oreilles de Chris, tout ce que vous êtes habitué de voir, mais il y avait aussi des menus de cuisine traditionnelle du Québec, donc vous allez avoir là des pâtés à viande, là, les tourtières, bon, on peut s'ostiner sur le nom, là, mais vous savez de quoi que je veux parler, là, ce qu'on mange habituellement à Noël, du ragoût de boulette, des crotons maison, il y a quand même un peu plus, le menu est un peu plus évolué là. Donc comme je pourrais vous dire, pour un menu de qualité, absolument ils travaillent super bien leurs affaires. Un menu qui va être un petit peu plus évolué, il y a moyen d'avoir là, un repas de cabane à sucre qui va être le fun, qui va offrir quand même une certaine diversité, qui va avoir d'autres choses là, que les simplement là, œufs, bacon, jambon habituels là, qu'on a, qui sont quasiment juste un déjeuner, et ça va être très bien fait, et ça va être des produits de qualité. Il n'y a rien qui m'avait choqué plus, là, moi, que d'être allé dans une cabane à sucre, puis c'était des tranches de jambon, là, les tranches qu'on achetait quand on était jeune, là, de jambon cheap, là, ben carré, rose fluo, là, vous savez de quoi je vous parle, là. Puis d'avoir eu juste ça, là, des, une espèce de plateau de tranches de jambon, là, sauté dans le poêle, comme je peux pas croire que je viens en cabane à sucre pour manger ça, ça n'avait aucun bon sens. Donc, ça sera pas le cas, là. Si vous allez à la Ribeyère Charbonneau, ils vont avoir un bon jambon. Personnellement, là, moi, c'est ce qui fait la différence, là. J'aime beaucoup les places qui font très attention à leur propre jambon. Donc, essayez de trouver, là, à l'entour de vous, là, posez des questions. Allez pas nécessairement à la première cabane que vous avez entendu parler, puis encore là, fiez-vous pas au prix. C'est pas parce que c'est la plus chère ou la moins chère que vous allez nécessairement en avoir le rapport qualité-prix. Il y a des gens qui font bien les choses, qui se donnent la peine de bien le faire pour que les gens soient heureux, puis offrir un beau produit, puis que vous vouliez revenir l'année d'après. Donc, personnellement, comme je vous dis, je vous recommande l'Érablière Charbonneau à Mont-Saint-Grégoire, mais dépendamment de vos régions, c'est clair là, qu'il y en a qui font les choses correctement et qui chargent un prix décent. Donc, ne vous laissez pas là, influencer là, par le fait que les médias ont dit que les prix étaient complètement ridicules. Il y a plein de cabanes à sucre qui font des très belles choses et des très bonnes choses, qui le font correctement et qui vous chargent un prix décent là, pour une sortie familiale. Donc, jetez un œil là, sur les cabanes à sucre, que ce soit là à Mont-Saint-Grégoire ou un peu plus dans votre région du Québec. Et parlant de cabane à sucre, j'ai une petite recommandation à vous faire. Si vous êtes là dans les cantons de l'Est, l'Érablière du Picbois à Bedford sur le chemin de Gaspé. Ça vous dit quelque chose ce nom-là? Ben c'est fort possible parce que j'avais reçu là, son propriétaire, M. André Pollander, là, en grande entrevue à l'épisode 16. On avait une super belle entrevue, là. Vous avez eu là, énormément d'informations là, sur un passionné de l'érable. Eh bien, évidemment, il a dû fermer là, la cabane à sucre là, de repas traditionnel en prenant là, sa retraite, mais il continue à faire du sirop d'érable. Il pourrait en faire profiter les gens. Ben, il rouvre quand même là, les fins de semaine, là, samedi et dimanche, là, l'après-midi, où ils font là, de la tire sans neige là, et ils font encore là, des crêpes là, pour manger avec leur délicieux sirop. D'après ce que j'ai vu là, sur les médias sociaux, là, 2023 semble être une excellente année pour eux et le sirop semble être absolument incroyable. Donc, si vous passez par là, là et vous voulez avoir là, un petit coup de sucré là, en passant là, dans les cantons de l'Est, ben, arrêtez là, sur le chemin de Gaspé à l'Érablière, la cabane du Picbois. Et profitez-en, en fait, ce qu'il nous avait dit là, en fin d'entrevue, le projet là, qui avait commencé à démarrer avec son fils David était de créer un vignoble. Et ben, ils ont commencé à travailler là-dessus l'été dernier et ils ont là, leur première bouteille du vin du domaine du Picbois. Donc, non seulement là, vous pouvez aller là, déguster de la tire sans neige et avoir un délicieux sirop là, de compétition là, vraiment de très haute qualité, ben, vous allez pouvoir là, avoir la chance de mettre la main sur une de leurs premières bouteilles de vin qu'ils ont produit cet été. J'ai bien hâte là, de passer là, dans mon petit coin natal pour aller là, goûter à ce produit-là. Je sais que c'est des gens qui travaillent extrêmement fort, qui ont fait là, toute leur recherche. Là, donc, c'est sûr que ça va être un produit qui va sûrement être, là, même à leur première année, là, quand même, avec des très belles qualités. Donc, bien, bien hâte de mettre le grappin là-dessus et de vous en parler dans un futur épisode. Donc, si vous avez une chance, là, pendant le temps des sucres, allez faire un tour dans les cantons de l'Est, voir là, la famille Pollander à la cabane du Picbois. Dans un autre registre, au niveau des microbrasseries là, du Québec, il y a des anniversaires qui se fêtent là, dans les prochains jours, les prochaines semaines là, pour certaines microbrasseries du Québec, dont la microbrasserie Boréal. La microbrasserie Boréal, dont le nom est plus à faire, là, qui a été un des piliers au niveau des microbrasseries du Québec. Donc, la microbrasserie là, qui était originaire de Saint-Jérôme, qui a, là, avec les années, déménagé ses activités à Blainville, fête son 35e anniversaire là, cette année. Là, c'est quand même une superbe histoire là, qui a commencé en 1987. Là, les créateurs Laura Urtnowski et Bernard Morin ont commencé là, à brasser leur propre bière pour financer leurs études. Là, ils ont éventuellement créé là, les Brasseurs du Nord, là, qui est la compagnie qui de la bière boréale. Déjà en 88, là, ils ont commencé à démontrer beaucoup de créativité là, au niveau là, de ce qui se faisait là, de bière de microbrasserie, étant là, quand même des piliers. Il n'y en avait pas beaucoup avant eux qui le faisaient. En 90, ils commencent déjà là, à embouteiller leurs produits et les vendre. En 1993, leur première bière forte, là, qui est connue maintenant aujourd'hui là, comme étant la Boréale cuivrée. Déjà en 1994, là, c'était devenu trop gros. Où est-ce qu'ils bougeaient à Saint-Jérôme? Là, ils déménagent à Blainville. Ils commencent à sortir des nouveaux produits là, à partir de 1998, là, dont la Boréale dorée, la Boréale blanche en 2004. À partir de 2005, là, ils commencent à installer des panneaux solaires pour être là, une microbrasserie verte là, pour utiliser l'énergie propre. Donc déjà encore là, là, des piliers au niveau de la production. 2012, Boréale sort sa première IPA. À partir de 2014, pour la première fois, Boréale ont aussi là, des canettes, là, plus seulement les bouteilles qu'on était habitué de voir là, à ce moment-là sur le marché. Vraiment là, énormément d'innovation. C'est d'ailleurs là, la brasserie Boréale qui a introduit la bière rousse au Québec. Qui ont fait, là, entre autres, là, leur première rousse en 1988. Là, ça a vraiment introduit cette histoire-là au Québec. Donc vraiment, là, une très grande microbrasserie à considérer dans l'histoire là, des microbrasseries du Québec. Il n'y en a pas beaucoup là, qui ont été construits et évolués là, depuis 35 ans. Là, on pense probablement là, à Unibrew là, qui est arrivé un petit peu plus tard là, dans le paysage. Donc vraiment, là, ça va être un très bel anniversaire. Je pense qu'ils vont sûrement avoir là, des bières spéciales. Ça commence à se parler là, à travers les branches là, qu'il y a des produits, des choses spéciales qui vont se passer pour eux. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Donc bon anniversaire, 35e anniversaire pour la microbrasserie Boréale. C'est pas les seuls là, qui sauvent, qui vont fêter un anniversaire. Beaucoup plus jeunes, on a la microbrasserie, la Kanawaki Brewing Company, qui va fêter là, ses 5 ans en fin de semaine là, au début du mois d'avril. Donc la Kanawaki Brewing Company là, qui va fêter ses 5 ans, là, qui est située évidemment à Kanawaki sur la route 138. Un événement là, est prévu là, samedi le 1er avril là, pour fêter leurs 5 ans. Des 5 bières là, qui vont être annoncées, je pense que là, un petit peu plus chaque jour pour fêter leurs 5 ans, 5 bières, que je sais pas si c'est là, des exclusivités. Il semble avoir là, des collaborations. Ah, tu vois, il y en a une qui vient d'être sortie au moment où j'enregistre. Une collaboration avec la microbrasserie Toltec. Une IPA à 6% avec houblon Citra, Citra Incognito et Luminosa. Ça va être une bière qui va être sûrement très intéressante. Là, donc, je pense qu'ils vont sortir là, une bière à chaque jour. Cette semaine, là, pour arriver à 5 bières pour leur 5e anniversaire qui va être fêté là, samedi. J'imagine qu'il va rester des bières pendant un petit peu plus longtemps. Donc, si vous passez là, dans le coin de Kanawaki, j'en ai entendu beaucoup de bien. J'ai très hâte d'y aller. Là, ça fait longtemps. Je les ai goûtés là, dans un événement que je vais vous parler là, un petit peu plus loin là, dans le podcast. C'est une brasserie très intéressante. Et comme je vous dis, là, ils ont aussi là, une place pour manger. Donc, à aller voir là, pour fêter son 5e anniversaire, évidemment, pas aussi âgé que Boréale, mais on leur souhaite un aussi long succès pour la Kanawaki Brewing Company qui fête son 5e anniversaire. Et avant d'avoir des anniversaires pour une microbrasserie, il faut d'abord qu'elle ouvre. Ben, il va y avoir là, une boutique de dégustation qui va ouvrir de Monsieur Malte à Chambly. Ça va ouvrir là, officiellement le 1er avril. Là. Sur le boulevard industriel. Il va y avoir là, un événement là, où on va pouvoir là, déguster les bières. On va pouvoir y avoir aussi des choses à manger. Il y a les. Je pense que ça va être comme un permis là, de microbrasserie. Pas de microbrasserie, là, mais comme de pub. Donc les enfants vont être admis. Donc si vous voulez faire un petit tour là, à Chambly pour l'ouverture de Monsieur Malte, qui a déjà d'autres succursales là, au Québec. va être ouvert là, dans le quartier industriel de Chambly, carrément sur le boulevard industriel. Donc, à partir du 1er avril, une succursale là, de Monsieur Malte. On va leur souhaiter tout le succès du monde. On espère qu'ils vont faire au moins 5 ans comme la Kanawaki Brewing Company et qui sait, peut-être même 35 ans là, comme Boréal. On souhaite évidemment toujours beaucoup de succès à des nouveaux producteurs qui rouvrent une nouvelle boutique. Et mis à part les ouvertures, il y a des réouvertures. Là. Il y a littéralement là, un restaurant qui va renaître de ses cendres. Le restaurant du 9e étage du centre Eaton. Oui, 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 vous avez bien entendu. Restaurant là, qui a été ouvert, là, qui était dans l'histoire de Montréal, qui avait ouvert ses portes officiellement en 1931 et qui avait malheureusement fermé ses portes en 1999. Eh bien, il y a un projet. L'ouverture est prévue pour la fin de l'année 2023. Donc, peut-être que ça va déborder un petit peu là, à 2024. On sait comment ça peut aller, là, les constructions. Mais ça va être un très grand resto avec une salle de spectacle et des salles privées qui va pouvoir là, accueillir jusqu'à 500 personnes. Donc là, évidemment, il y a beaucoup de travail à faire là, pour s'assurer que ça va être là, au règlement là, moderne. Mais ils veulent absolument garder là, le cachet architectural là, de la bâtisse originale. Donc, ils vont vraiment faire très peu là, de changements quant au look. Ils vont évidemment juste remettre ça au goût du jour, s'assurer que c'est sécuritaire et commencer là, à faire ça. Donc, le centre Eaton, le restaurant du 9e étage du centre Eaton à Montréal, qui renaît de ses cendres, qui avait fermé là, depuis presque 20, en fait plus que 20 ans, ça fait presque 25 ans, puisqu'il avait fermé en 1999, va réouvrir là, à la fin de l'année. Donc j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer là. Évidemment, là, il y a eu énormément d'histoires dans cette bâtisse-là, là, le Centre Eaton qui a été au centre là, de l'économie de Montréal pendant tellement longtemps, qui a été fermé aussi là, depuis tellement d'années, comme je vous dis, ça fait presque 25 ans. Donc j'ai très hâte de voir là, qu'est-ce qui va se passer avec la renaissance carrément du resto 9e étage du Centre Eaton. C'est prévu là, pour la fin de l'année, comme je vous dis. On va garder un œil là-dessus. Là. Je pense que ça risque d'être très, très gros. Il reste d'avoir là, beaucoup d'événements. Je ne serais pas surpris que ce soit la nouvelle place trendy là, de la seconde que ça réouvre. Avec son histoire, là, c'est sûr que ça va avoir énormément là, de presse quand ça va réouvrir. Donc, on garde un œil là-dessus. La réouverture du restaurant du 9e étage du Centre Eaton à Montréal. Au Québec, au niveau des spiritueux, on est surtout là, connu pour le gin. On a aussi du rhum qui est fait au Québec. Et, j'étais le premier à rire un peu là, quand on disait là, du rhum québécois. Là, j'étais comme, ouais, bon, pour la quantité de canne à sucre qui pousse ici, là, c'était pas très, très... Je trouvais que ça faisait pas très, très sérieux. Mais bon, après avoir lu un petit peu plus, je me suis rendu compte là, qu'il y avait vraiment des produits qui étaient faits complètement là, à partir là, de scratch, entre autres là, de la maison, la distillerie de Montréal là, qui fait son rhum Rosemont avec des ingrédients du Québec. Évidemment, ils ne peuvent pas travailler à partir de la canne à sucre parce que ça ne pousse pas ici. Par contre, ils ont été complètement bien honnêtes et ils ont travaillé avec Montréal et son historique où on a évidemment une historique au niveau de la mélasse là, qui est un peu là, les déchets organiques là, du sucre là, que c'est dans la transformation, là, c'est de là qu'on obtient la mélasse. Il y a vraiment là, un historique de mélasse à Montréal. Là. Il y a d'ailleurs là, un quartier qui s'appelait là, le Faubourg à Mélasse, qu'il y avait eu là, un accident, là, puis qu'il y avait eu de la mélasse partout, puis ça sentait là, pendant des années et des années. Donc, ils ont mis vraiment là, l'effort de transformer la mélasse là, en rhum. Donc, ils ont vraiment travaillé avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de doigté pour en arriver là, à faire des vrais rhums québécois. Donc, je vais être le premier là, qui va devoir là, présenter là, leurs excuses. Comme quand je ne prenais pas là, au sérieux le fait qu'on ait du rhum typiquement québécois. Mais bon, le rhum Rosemont là, de la distillerie de Montréal était vraiment fait à partir là, de produits québécois. Je vous ai déjà parlé, entre autres, là, de leur rhum à l'ananas. Écoute, quand ils font le rhum à l'ananas, c'est du sérieux. Là. Ils travaillent avec des ananas gold du Costa Rica. Et puis, ça prend là, 220 ananas pour faire un lot d'à peu près 200 caisses qui laissent là, évidemment mûrir à la distillerie. Donc, ils travaillent avec beaucoup de produits qu'ils ont très bien choisis. Comme ils distillent là, la mélasse à basse température. Ils trouvent le moyen quand même d'aller chercher des arômes qui sont vraiment typiques puis à la limite même très proche là, de rhum agricole qui se font là dans les pays chauds là, avec la canne à sucre. Apparemment que quand ils font goûter là, aux distillateurs qui font du rhum agricole, ils arrivent même à en piéger certains là, parce que ça a vraiment des notes très florales, des notes très typiques là, des agricoles, avec l'assommure, un petit goût d'olive, un peu noir. Fait qu'apparemment là, que le propriétaire, là, monsieur Wolfsulberger, là, est très fier de ces produits-là. Donc, je connaissais, comme je vous dis, là, déjà le rhum à l'ananas. Je vais devoir là, m'avouer vaincu et goûter un autre de leurs produits. Là, vraiment, c'est des rhums faits complètement québécois. Je pensais que c'était surtout là, juste des alambics qui arrivaient déjà presque ici, tout mélangé, puis ils faisaient juste là, l'infuser là, de ce qu'ils voulaient. C'est pas du tout le cas. Là. Ils travaillent vraiment, comme je vous dis, là. Ils ont été dans l'historique de Montréal et ils sont mis à travailler à partir corps et blanc de la mélasse pour créer leur rhum. Donc, je vais faire un petit effort là, et essayer de mettre la main là-dessus, là, voir les rhums Rosemont de la distillerie de Montréal. Des vrais rhums québécois. J'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais hey, c'est la réalité. On est rendu là. Il y a plein de belles techniques là, qui font qu'on peut faire ça maintenant. Et puis, on peut faire pas de la mélasse, mais on peut faire du rhum, pas juste à partir de la canne à sucre. Donc, comme je vous dis, on a réussi à faire un produit de qualité avec la mélasse du Québec. Et parlant là, de distillerie, on peut pas passer à côté là, de la nouvelle qui est tombée cette semaine, là, la distillerie Saint-Laurent là, de Rimouski là, qui est endettée pour une somme de 13,5 millions et qui se place là, sous les lois de la protection de la faillite. C'est extrêmement malheureux. Là. Je pense que les produits qui sont faits là, à base d'algues là, des gins Saint-Laurent sont reconnus là, pour être de très, très belle qualité. Ça fait quand même longtemps, ben pas longtemps, là, mais ça fait un bout qu'on entend parler là, que les distilleries du Québec vont avoir de la misère là, à passer à travers l'année, puis il fallait s'attendre à plusieurs fermetures, et c'est sûrement pas la seule. C'est la première, puis c'est malheureusement une des plus grosses, et qu'on connaît beaucoup et qu'on apprécie leurs produits, mais ce ne sera certainement pas la seule à se placer sous la loi de la faillite en 2023. Ce ne sera malheureusement pas entièrement de leur faute. Il y a énormément de facteurs qui font là, que ça va être très difficile pour les distilleries là, de retirer leur épingle du jeu là, puis d'être profitable au Québec. Ça fait déjà plusieurs années là, qu'ils ne le sont pas. Jusqu'à tout récemment, les distilleries ne pouvaient pas vendre leurs produits directement sur place. Ça leur a finalement été accordé, mais le monopole de la SAQ au Québec pour vendre là, des spiritueux fait que ce n'est pas du tout profitable pour une distillerie de vendre à même la distillerie ses produits, ce que je trouve un peu ridicule, là, ça devrait être au moins plus profitable que d'envoyer une bouteille à la SAQ. Et malheureusement, là, avec la façon que les lois sont faites, là, que c'est régi, les distilleries, là, je ne sais pas s'ils perdent de l'argent, mais ils font moins d'argent en vendant leurs propres bouteilles là, directement chez eux. Ce qui n'est pas le cas par contre, là, mettons là, des microbrasseries là, au Québec qui vendent directement sur place, ont pas cette cote-là là, qui fait qu'ils font moins d'argent. Donc, il va y avoir énormément de choses. Il y a eu énormément, un très, très gros essor aussi au niveau des micro-distilleries là, au Québec. Il y a 5-6 ans, il y en avait 12. On est maintenant rendu à 70. C'est énormément là, de distilleries pour le Québec. On a beaucoup aimé là, les produits. Il ne faut pas oublier là, qu'on est à peu près 8 millions de personnes au Québec. C'est énormément de produits là, pour une si petite population. Et exporter, là, c'est pas évident. Là. On se bat avec la planète au complet. On n'est pas les seuls à faire du gin. Là. C'est pas du sirop d'érable. Donc, ça doit être extrêmement compliqué au niveau des produits là aussi. Donc, évidemment, s'il y a plus de micro-distilleries, il y a plus de produits. Il y a à peine 5 ans, il y avait environ seulement une douzaine de produits de gin québécois. 5 ans plus tard, on est à 235 gins québécois qui sont enregistrés à la SAQ et d'ici la fin de l'année, ils vont en avoir 250. C'est énormément de produits, c'est extrêmement difficile de tirer son épingle du jeu. Écoutez, là, on calcule comme vous voulez, là, mais il y a 365 jours par année. Là. Ça voudrait dire que tous les buveurs de gin, il faudrait qu'ils achètent 5 bouteilles de gin différents par semaine à l'année longue pour pouvoir là, avoir acheté une bouteille de chacun de ces produits-là. Donc, vous imaginez comment est-ce que c'est extrêmement compliqué. Ça fait aucun bon sens quand on aime un gin, mais souvent, on veut y revenir. Donc, c'est énormément de produits. Là. Ça a probablement là, complètement là, diluer le marché. Ça va être très, très, très difficile là, pour certaines microbrasseries, pas microbrasseries, mais micro-distilleries, de se revirer de bord, de tirer leur épingle du jeu, de trouver une façon. Là. Je pense qu'il va aussi avoir au niveau des lois un allègement où ce que bon, ils vont devoir, s'ils peuvent être simplement vendre sur place sans donner une cote là, aussi grosse à la SAQ, je pense qu'on va peut-être avoir arrivé à une législation qui va ressembler à celle là, des microbrasseries justement au niveau de la bière, où ce que ben s'ils n'ont pas affaire à passer à travers là, les ventes et puis la distribution de la SAQ, puis qu'ils peuvent vendre complètement sur place, mais qu'ils puissent au moins avoir une façon de survivre comme ça. Donc je pense que ça va peut-être être une des parties de solution, mais ça pourra pas être juste ça. Je pense qu'il y en a eu énormément sur le marché. Comme je vous dis, on a bien beau aimer le gin, mais 250 produits enregistrés à la SAQ, c'est énormément de gin. Ça va être très, très, très difficile. Donc, malheureusement, là, la distillerie Saint-Laurent là, qui s'est placée sous la loi de la faillite, je pense qu'ils ne seront pas les seuls. Il va sûrement avoir une réorganisation, puis une... essayer de trouver quelque chose de nouveau là, pour s'en sortir. On espère de ne pas perdre ces produits-là qui sont là, tellement bons. Mais écoutez, c'est énormément de produits. Il va y avoir beaucoup de choses. Il y a un excellent article de blog qui a été fait sur Madame Gin, qui est Emmanuel Ricard. Donc, allez voir sur son blog. Un très bel article là, par rapport là, à la survie du gin québécois là, en sol québécois. Je pense que ça explique là, beaucoup qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qui devrait se passer pour que le gin puisse survivre? Ça va dépendre de beaucoup de choses. Mais écoute, on peut juste là, souhaiter la meilleure des chances là, à tous ces producteurs-là là, qui ont travaillé extrêmement fort là, pour développer un produit. Puis que là, en grossissant, ben juste un petit peu, là, viennent à un point où même s'ils n'en ont jamais autant produit et qu'ils n'en ont jamais autant vendu, ils réussissent toujours pas à être profitables. Là. Donc, un gros coup de cœur là, envers les distilleries là, du Québec là, qui risquent d'avoir une année extrêmement difficile. J'ai été à un événement à Saint-Jean-sur-Richelieu là, qui se passait là, dans les locaux de la microbrasserie Overhop. L'événement s'appelait le Festival Brasseur. C'était un regroupement d'énormément là, de microbrasseries. J'ai goûté à des trucs là, que je vais vous parler là, dans mon prochain épisode. Comment il décrivait l'événement, c'est « Cela a toujours été notre rêve de rassembler les femmes incroyables de l'industrie pour une journée de fête après trois longues années d'attente. Nous y sommes enfin. » C'était tout à fait là, des microbrasseries qui étaient là, majoritairement représentées par des femmes. Il y avait une DJ sur place qui était une femme, donc c'était super intéressant. Des très beaux produits, des microbrasseries, quelques autres petits, il y avait des places là, pour manger... casser la croûte, là, mon dieu, on était plus là, là pour goûter les bières, puis là, jeter un œil sur quelques petits trucs. Donc, ça a été une super belle après-midi. Simplement, là, un verre de 4 onces qu'on avait acheté là, pour 10$, puis on payait là, chacune de nos dégustations qui était à peu près de 3-4$. Je pense que clairement, là, il va y avoir un repeat là, de tout ça. Il y avait énormément de microbrasseries qui étaient présentes, ainsi là, que d'autres business, là, autant là, pour... des places qui faisaient des savons, des places qui faisaient de la bouffe. Donc, un super bel événement. C'était très, très cool. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Ça l'a vraiment là, fait donner une chance de voir des microbrasseries que je n'avais pas vues, que j'aurais peut-être pas pu voir. Entre autres, bon, c'est sûr qu'il y avait la microbrasserie Domaine Bertium que j'aime beaucoup et que je vois, que je vais assez souvent là, visiter pour prendre quelques produits. Qui est à Saint-Jean-sur-Richelieu, eux autres aussi, puis que je connais très bien. Mais il y avait des microbrasseries là, que je connaissais pas du tout ou que j'avais pas eu accès, là, dont entre autres le Kanawake Brewing Company était là et il y avait quelques bières là, en dégustation que j'ai pu tester. Et aussi là, la Grange Pardue qui est de l'autre bord de Québec, qui est quand même assez loin pour moi, là, qui est sur la rive sud de Montréal. Donc eux autres aussi, j'ai pu goûter à leurs produits. Donc des choses très intéressantes. Produit dont je vais vous parler là, dans le prochain épisode. C'était vraiment un bel événement. J'ai vraiment là, bien apprécié ça. C'est clair là, que c'est le genre de petit événement qui se passe là, rapido presto, là, un petit samedi après-midi. Ça nous fait prendre un petit apéro. Il va y avoir là, beaucoup de ce type d'événements-là qui va arriver de plus en plus avec le printemps. Je vais vous en parler là, de quelques-uns ou bien des événements là, qui sont soit dans des microbrasseries, soit que c'est des soirées spéciales. Là. Je pense que un peu tous les microbrasseries vont essayer de tirer leur épingle du jeu en ayant des soirées un peu plus spéciales, là, d'une façon ou d'une autre. Entre autres, là, complètement à l'autre bout, au niveau géographique, la microbrasserie Anorak à Morin Heights, là, dans les Laurentides, a commencé là, une soirée karaoké le dimanche. Donc, si vous êtes dans ce coin-là et vous voulez vous amuser, une soirée karaoké, là, vous êtes sûr de ne pas vous, vous tromper. C'est toujours funny, c'est toujours de bonne, bonne ambiance. Il n'y a pas personne qui va dans une soirée ou dans un bar karaoké là, qui est de mauvaise humeur et qui cherche le trouble. Là. Fait que dans une soirée karaoké, vous allez avoir du fun, c'est sûr. Donc, un petit dimanche, si vous êtes dans les Laurentides, vous allez avoir de la très bonne bière, de la microbrasserie Anorak. Je vous ai déjà parlé de leurs produits. Les karaokés le dimanche à la microbrasserie Anorak. Ensuite, sur la rive sud, à Chambly, une microbrasserie dont je vous ai parlé souvent, ma favorite, Bedondenne et Bedonron, a une ligue d'improvisation mensuelle, la SOIPHE, S-O-I-P-H-E. Leur prochain match va justement être là, le 2 avril à la microbrasserie Bedondenne et Bedonron. Donc, ils ont un match comme ça là, à tous les mois, pas mal au début du mois, là, une fois par mois. Donc, je pense que c'est entrée gratuite, si j'ai bien vu. Il y a de la bonne bière sur place, vous allez avoir un beau spectacle, vous allez vous amuser. Allez faire un tour, là, la Ligue d'improvisation SOIPHE au Bedondenne et Bedonron. Le prochain match, le 2 avril, c'est un dimanche. À Montréal, le week-end du 30 mars là, et 1er avril va avoir à Montréal la 9e édition de la cuvée de Montréal. C'est la grande célébration des passionnés du boire local qui va faire son grand retour, tant entendu, le 30 mars au 1er avril au salon 1861 là, situé au cœur de Montréal. La cuvée là, va vous offrir une variété impressionnante de produits d'exception à déguster, allant de la bière au vin québécois, en passant par les spiritueux, le cidre et la bonne bouffe. L'événement par excellence des curieux, où vous allez avoir là, une véritable passion pour les produits d'ici. Outre son offre là, de fin nectar, la cuvée présente également des DJ sets ainsi que des performances burlesques endiablées, de quoi mettre le feu au dance floor. Loin d'être prétentieux, l'événement réunit festivaliers, brasseurs et artisans dans le décor unique du salon 1861, une ancienne église, pour une des fêtes des plus rassembleuses. Donc, la cuvée là, du 30 mars au 1er avril 2023, ça se passe là, au salon 1861 sur l'avenue Richmond à Montréal. Vous pouvez avoir là, les billets sur lacuvée.ca. On va finir là avec une petite suggestion d'événements resto. Si vous aimez les tacos, vous avez les Taco Tuesday, vous ne savez plus où vous garocher pour avoir les meilleurs, eh bien, vous allez avoir la chance là, de goûter énormément de chance les mardis et mercredis. Le restaurant La Toxica à Montréal, là, sur la rue Saint-Hubert, offre une version taco à volonté pour la modique somme de 20$. Vous allez avoir toutes sortes de tacos différents là, que vous allez pouvoir goûter. Et dans votre 20$, il y a un breuvage, évidemment pas une consommation alcoolisée, mais vous allez avoir un breuvage là, typique qui va vous être offert. Donc, pour une bouchée de pain, vous allez avoir là, des tacos à volonté de toutes sortes. Ils sont très en vogue présentement. On entend beaucoup parler d'eux là, sur tous les sites de review. Là, La Toxica, restaurant mexicain de Montréal. Des tacos à volonté pour 20$. C'est clair là, que ça peut être une expérience. Donc, c'est offert là, les mardis et mercredis sur le restaurant de la rue Saint-Hubert à Montréal. Ça peut être un événement là, qui transforme très rapidement là, un petit mardi en soirée festive et vous faites là, des découvertes là, absolument merveilleuses. Comme je vous dis, ça est très, très, très en vogue présentement. Clairement, là, ils font quelque chose de très bien. Donc, sur cette suggestion resto, c'est la fin de l'épisode des Foodie News, première édition pour le mois de mars-avril 2023. Merci d'avoir écouté le podcast Aliments Passion. J'espère que vous allez apprécier les Foodie News. C'est encore un peu nouveau, là, fait que c'était sûr que c'était peut-être un petit peu là, bredouille, mais on va s'arranger pour resserrer ça là, pour que ce soit beaucoup plus intéressant et encore plus facile là, à prendre des notes là, pour toutes les nouvelles qui s'en viennent pour les prochains mois. Là. Alors, n'hésitez pas, envoyez-nous des suggestions. Si vous voulez écouter notre podcast, on est absolument partout sur les grandes plateformes, évidemment, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. Si jamais vous écoutez ailleurs, on est là partout aussi. Spreaker, iHeartRadio, Podchaser, Pocket Cast, Alimentation est partout. Si jamais on n'est pas sur votre podcatcher favori, envoyez-moi un message, je vais arranger ça pour que vous puissiez écouter votre podcast favori sur votre plateforme favorite. Ici Roger, le Crazy Chef qui vous rappelle, arrêtez de faire des recettes et cuisinez. Bye bye!